Franck Ferrand sur Europe 1, au cœur de l'histoire.
C'est un Orient plein de sensualité que Franck Ferrand a choisi d'évoquer cet après-midi. Bonjour Franck.
Bonjour Céline, bonjour à tous. J'ai en effet convié Malek Chebel à venir nous parler de l'érotisme arabe, auquel il vient de consacrer un très beau livre avec toutes sortes de références, dont certaines très anciennes. On va en parler dans un instant. Et avant de lever un coin du voile sur les secrets de cette Arabie heureuse, il m'a paru intéressant d'aller encore plus loin dans l'espace et dans le temps, jusqu'à cette Inde antique où est né le Kama Sutra. Vous imaginez près de 2000 émissions sans jamais avoir parlé du Kama Sutra. Il fallait vraiment régler la question. Vous sentez un peu la température qui monte,
oui,
là déjà, Céline.
On a coupé la clim.
Évidemment.
À la fin de l'émission, pour revenir à des températures raisonnables, vous répondrez à la question de Linda sur les expressions qui font référence aux moutons, comme mouton de Panurge.
Oui, ou revenons à nos moutons, en l'occurrence, les maîtres orientaux de l'extase et des sens.
Europe 1. Au cœur de l'histoire. Franck Ferrand.
Kama Sutra, littéralement le traité de l'amour, le bréviaire du plaisir. Kama Sutra, sans doute, les mots sanskrits les plus célèbres au monde et qui restent chargés d'une incroyable charge érotique. Le mot traîne partout depuis longtemps dans 100 000 publications qui se veulent licencieuses et que les collégiens naguère achetaient en douce avec leurs petites économies. Pour être la plupart du temps déçu, évidemment, comme je l'ai été moi-même, écrit Jean-Claude Carrière en ouverture de l'article qu'il consacre au Kama Sutra dans le dictionnaire des sexualités. Il me semble que la plupart de nos contemporains, en effet, et je me rangeais à leur nombre jusqu'à une date récente, ont une vision fausse, dénaturée du Kama Sutra qui, pour presque tout le monde, se résume d'abord à une collection de positions sexuelles, au nombre de 64. D'ailleurs, c'est un des surnoms qu'on donne au recueil, on l'appelle aussi les 64. Les éditions se distinguent d'abord par leurs illustrations, mais ce qu'il faut savoir, c'est que dans la version originale, il n'y avait pas d'illustration du tout. Le texte au départ était en sanskrit, l'ancienne langue de l'Inde brahmanique, et l'auteur s'appelle Vatsyayana Malanaga. Il écrit ça à peu près au 4e siècle. C'est une compilation que nous propose Vatsyayana, une compilation de plusieurs textes dont certains sont beaucoup, beaucoup plus anciens. La société traditionnelle hindoue est dans ce texte décrite sous son jour le plus intime, évidemment. Le manuscrit donc n'était pas illustré, c'est un texte monobloc qui n'a aucune fonction esthétique, si je puis dire. Le développement des manuscrits illustrés est venu plus tard, à partir de 1550, notamment grâce à la première édition faite pour l'empereur Akbar dans l'empire moghol. Vous savez que Akbar ne savait pas lire, tout simplement, et donc on lui avait fait des dessins, si j'ose dire. Le Kama Sutra enluminé va devenir par la suite une tradition artistique musulmane. On aura l'occasion d'y revenir, bien entendu, avec toutes ces miniatures colorées sous le texte ou à côté. Alors, qu'est-ce que c'est que ce Kama Sutra? Donc, littéralement, la science des plaisirs, si on veut. Ça remonte, en vérité, au Kama Shastra, qui lui date du 8e siècle avant notre ère et qui était déjà la compilation d'ouvrages de référence qui décrivaient les mœurs de l'époque Maurya. Vous savez, l'époque Maurya, c'est le premier grand empire de l'Inde. Vatsyayana va y ajouter sa touche personnelle. Alain Danielou, qui a réalisé la dernière traduction française du Kama Sutra, nous dit « Le Kama Sutra n'a rien d'un ouvrage pornographique. Il représente une étude impartiale et systémique de l'un des aspects essentiels de l'existence. C'est avant tout un tableau de l'art de vivre d'un citadin civilisé et raffiné, complétant sur le plan de l'amour, de l'érotisme et du plaisir de la vie les œuvres parallèles que sont les traités de politique et d'économie. L'Artha Shastra et de morale, le Dharma Shastra auquel il se réfère constamment. Autant dire que le traité originel s'adresse à un public quand même pour le moins choisi. Damien Panneret, dans la préface d'une des éditions du Kama Sutra, explique « destiné à des personnes aisées et particulièrement à l'homme de bien, prospère et raffiné, très souvent un financier ou un riche négociant ainsi qu'à son épouse. Il s'agit généralement, disons-le, de bourgeois qui résident dans une grande cité. Le Kama Sutra explique que même si les techniques érotiques concernent évidemment tous les humains, les raffinements de l'art d'aimer ne sont possibles que si l'on dispose de demeures agréables, de lits confortables, de salles de bain, de pièces de réception, de jardins, de fleurs, de parfums. » Alors, faisons peut-être un petit point sur l'auteur de ce premier texte du Kama Sutra, ce Vatsyayana Malanaga. On sait peu de choses sur lui. Il aurait donc, je vous l'ai dit, vécu au IVe siècle de notre ère, hein, dans l'empire Gupta, au nord de l'Inde. Cet empire Gupta a souvent assimilé à une forme d'âge d'or de la culture indienne ancienne. Il aurait été donc un brahmane, un grand lettré, et il a voulu faire un ouvrage de référence sur l'amour, les autres étant, à son avis, tous ceux qui existaient jusqu'alors étant trop anciens. Il entreprend, si vous voulez, de regrouper, pour les rendre plus faciles d'accès, un ensemble de textes, tout un corpus qui existait. Il y ajoute des notes pour faciliter la compréhension, en tout cas c'est ce qu'il pense. C'est peut-être tout simplement parce qu'il projette ses propres versions de sa propre conception de la chose. Et Alain Danienou nous dit « Vatsyayana affirme par ailleurs avoir contrôlé lui-même par l'expérience les pratiques indiquées. » Ça, c'est visiblement faux. L'auteur ne se fonde pas sur une expérience personnelle, et un révolutionnaire indien du début du XXe siècle qui s'appelait Bhattacharya disait « La tentative de Vatsyayana d'écrire un traité scientifique est en effet louable, mais la difficulté était qu'il n'avait aucune connaissance pratique du sujet. Nous devons de dire qu'il s'agit d'une production scolastique pédante et superficielle, rien que ça. Pour lui, les positions sexuelles sont des techniques acrobatiques dont la plupart sont impossibles à exécuter dans le domaine pratique. Quant aux drogues qu'il préconise, elles sont principalement imaginaires, nous dit cet auteur indien, et elles relèvent de la superstition et ne correspondent pas à celles que l'on trouve dans les textes ayurvédiques classiques. » Le premier Kama Shastra, donc ce texte dont s'inspire le Kama Sutra, est attribué alors là à un auteur infiniment plus ancien, un certain Nandi, qui est un auteur parfaitement imaginaire, qui est censé avoir été le compagnon du dieu Shiva, mais alors là dans une période extrêmement lointaine, tout à fait préhistorique. On attribue l'origine de la science érotique à Malanaga, nous dit Alain Danielou, le prophète des Asuras, les anciens dieux, c'est-à-dire à des âges préhistoriques. Nandi, le compagnon de Shiva, l'aurait donc transcrit pour l'humanité actuelle. Ce premier ouvrage de Nandi aurait été résumé donc au 8e siècle avant Jésus-Christ, et l'ouvrage lui-même sera ensuite repris par les disciples d'un lettré appelé Babrou, et repris entre le 3e et le 1er siècle avant notre ère par tout un ensemble d'auteurs. Dataka notamment aurait, avec l'aide d'une courtisane de Pataliputra, réalisé un ouvrage sur les courtisanes qui reproduit presque intégralement le texte en question. Alors, qu'en est-il de ce texte? Qu'y a-t-il dans le Kama Sutra? Est-ce qu'on va, oui ou non, l'ouvrir, la lever, cette couverture? Oui, nous y venons dans un instant.
Franck Ferrand, 14h, 15h sur Europe 1.
Et nous revenons avec vous, Franck Ferrand, à l'histoire du Kama Sutra.
Vous avez vu comme il y a... On entendrait une mouche voler en régie aujourd'hui. Et on a des visiteurs, je ne vais pas dire lesquels, mais qu'on ne voit jamais en temps normal. Bon, enfin, c'est comme ça. Cette partie, en fait, dans le Kama Sutra, répartie en 36 chapitres et au total 1250 versets, mais tous ces chapitres et ces parties sont de longueur inégale, bien entendu. Wendy Doniger, qui a qui a fait la préface du Kama Sutra dans la langue étrangère, anglaise, dit que ça pourrait être considéré comme une pièce de théâtre sur le sexe. Il est certain qu'il propose un déroulement théâtral, et comme la plupart des pièces indiennes classiques, nous dit-elle, il a 7 actes. Il faut vous dire que les termes employés sont effectivement des termes qui appartiennent au théâtre sanskrit. Par exemple, l'homme et la femme sont appelés dans le livre Nayaka et Nayika, pour désigner donc le protagoniste mâle et femelle, sont des termes de théâtre, de même que les rôles du libertin, de l'entremetteur, du bouffon, bouffon qui assiste le Nayaka. Donc c'est vrai qu'on est dans une optique qui a l'air théâtrale. À l'acte 1, nous dit Madame Doniger, qui au sens littéral dispose la scène pour la pièce, le célibataire met ses pions en place. À l'acte 2, il perfectionne sa technique sexuelle. Ensuite, il séduit une jeune vierge, c'est l'acte 3, se marie et vit avec une ou plusieurs femmes, c'est l'acte 4, lassé d'elles ou de toutes, il séduit les femmes d'autrui, c'est l'acte 5, et quand ils s'en lassent à leur tour, ils fréquentent des courtisanes, c'est l'acte 6. Enfin, quand vraiment il ne peut plus du tout y arriver, il recourt à l'équivalent du Viagra dans l'Inde ancienne, aphrodisiaque et charme magique, c'est donc l'acte 7. Sans avoir recours au théâtre, j'ai envie de dire qu'il s'agirait plutôt des 7 âges de la vie, en tout cas des 7 âges de la vie sexuelle dans ce Kama Sutra. Alors, il y a des commentaires, bien entendu, notamment de deux grands commentateurs, Yashodhara, qui a écrit, on ne sait pas exactement quand, mais enfin on est au Moyen-Âge, hein, entre le XIe et le XIVe siècle. C'était visiblement un très grand lettré, ce Yashodhara, dont on trouve partout les commentaires qui sont désignés dans les éditions et dans les traductions par la lettre Y ou par la lettre I. Et puis le Jaya, qui est lui qui propose un commentaire moderne en langue hindi qui date du début du XXe siècle et dont la première publication ne remonte qu'à 1964 d'ailleurs. Alors ces commentaires permettent bien entendu de remettre l'ensemble des propos du Kama Sutra dans leur contexte. Ce qu'il faut peut-être commencer par dire, c'est que ce Kama Sutra ne parle pas seulement des différentes façons, pour parler clairement, des différentes positions pour faire l'amour. C'est plus large que ça. D'abord, la première partie, ce sont des généralités. Vatsyayana s'attache dans cette partie aux considérations générales et notamment à ce qu'il considère comme les trois buts de la vie hindoue. L'homme, au cours des 100 années de sa vie, doit poursuivre successivement trois buts sans que l'un nuise à l'autre, écrit-il. Et là, le commentateur Yashodhara dit « Durant les trois premières périodes de sa vie, l'homme doit se réaliser sur trois plans qui sont indépendants. La vertu, donc le dharma, dont je parlais tout à l'heure, la richesse, artha, et l'amour, donc kama, en les harmonisant sans que l'un nuise aux autres. Dans l'enfance, on doit s'appliquer à l'acquisition du savoir, dit spécifiquement le Kama Sutra, et Yashodhara précise que cette période doit durer jusqu'à 16 ans. » Ensuite arrive l'âge adulte où l'érotisme est prédominant. Puis dans la vieillesse, on se consacre à la pratique de la vertu, à la recherche spirituelle. La durée de vie étant incertaine, il faut savoir profiter de toutes les occasions, nous dit le Kama Sutra, et il faut rester célibataire pendant la période d'études pour l'acquisition du savoir. Vous voyez qu'en fait, il y a quelque chose finalement d'assez moral dans tout ça et qui pourrait presque faire penser à un certain nombre des grands textes religieux qui définissent les cycles de la vie. Alors, évidemment, ça s'arrête pas là, parce que dès la partie 2, ça se corse un peu. On arrive au sexe proprement dit et à l'union sexuelle. Alors là, l'auteur ou les auteurs, vous avez bien compris que c'est un peu plus complexe que ça n'en a l'air, explique comment réaliser les approches amoureuses. Je cite le texte même du Kama Sutra. Dans la chambre de sa maison vouée à l'amour, une chambre décorée remplie de fleurs, embaumant le parfum et l'encens, l'homme du monde, vous avez bien vu qu'on parle toujours de l'homme du monde, hein, l'homme du monde entouré de ses amis et serviteurs reçoit une femme baignée et parée qui a bu la quantité qu'il faut, il la met à l'aise et lui offre encore à boire. Il s'assied à sa droite et lui, entre parenthèses, un certain nombre d'adeptes de l'érotisme moderne ne vont pas être du tout d'accord, qui considèrent qu'il faut surtout ne pas avoir bu si l'on veut vraiment profiter du sexe. Mais enfin, c'est pas un commentaire établi, ça c'est le mien propre et je m'empresse de fermer la parenthèse. Donc, il s'assied à sa droite et lui caresse les cheveux, le bord de son sari, le nœud de sa ceinture, ça commence à se corser sérieusement, il l'enlace délicatement de son bras gauche pour la préparer à faire l'amour, ils parlent ensemble de ce qu'ils ont fait auparavant, plaisantant, se titillant, effleurant toutes sortes de sujets cachés ou obscènes. On a envie de dire, est-ce qu'on a vraiment besoin du Kama Sutra pour avoir tout ce genre de toutes ces précisions? Ben, si l'on en croit les commentaires, ces textes-là recèlent beaucoup plus de vérité que ça n'apparaît. Et effectivement, il faudrait pouvoir entrer dans la société du temps pour comprendre peut-être tout ce qui est dit là. Certaines personnes appellent la partie de ce texte sur la relation sexuelle les 64, dit le texte même du Kama Sutra, parce qu'il y a 64 sections. Alors, je ne vais pas entrer dans toutes les positions, d'ailleurs ça ressemble plus à un manuel de gymnastique ou d'éducation physique qu'à autre chose, mais parlons peut-être je vous lis un extrait, hein, ce sera peut-être plus simple. Comme une plante grimpante s'enroule autour d'un grand arbre d'amarre, elle s'enroule autour de lui, penche son visage vers lui pour l'embrasser ou l'élevant de nouveau. Elle allaite doucement, allaite du verbe « allaiter », se repose sur lui et plonge ses yeux dans les siens avec amour pendant un moment. C'est cela la plante grimpante. Alors c'est pas cela seulement, la description de la plante grimpante, c'est dans les 8 lignes qui suivent. Mais comme nous sommes quand même sur Europe 1 à 14h21, je préfère vous laisser imaginer les 8 lignes qui suivent. Si vous voulez, on pourrait les mettre sur le site peut-être pour ceux qui veulent vraiment savoir comment on pratique la plante grimpante. Vatsyayana développe de toute façon toutes sortes d'aspects. Les baisers, mais aussi, et c'est intéressant, les griffures, les gifles, les morsures. Il y a un côté amour vache aussi dans ce Kama Sutra. Les gens embrassent sur le front, les cheveux, les joues, les yeux, la poitrine, les seins, les lèvres. Et à l'intérieur de la bouche, nous dit-il, les endroits à embrasser sont aussi ceux à mordre, sauf la lèvre supérieure, l'intérieur de la bouche et les yeux. Les dents de bonne qualité sont régulières et bien proportionnées, brillantes, polies, avec des bords tranchants, non débréchés, avec la capacité de retenir les couleurs. Alors, vous avez compris que je suis passé un peu à pieds joints sur cette deuxième section. Quand la relation sexuelle s'achève, nous dit le Kama Sutra, il y a allaitement et pleurs. Quand l'homme, dans les affres de la passion, frappe une femme de façon répétée, elle se sert des mots « arrête » ou « laisse-moi » ou « assez » ou « maman » et elle émet des cris mêlés de respiration difficile, de allaitement, de pleurs et de grondements. Quand la passion touche à sa fin, il la frappe entre les jambes, sur les flancs, à grande vitesse, jusqu'à l'orgasme, on a envie de dire, pas étonnant que les collégiens soient parfois un peu déçus.
Et nous vous rappelons, chers auditeurs, que vous pouvez réagir tout au long de l'émission, nous envoyer vos messages et vos questions par mail sur europe1.fr, Twitter, celui de Franck Ferrand ou hashtag ACDH, ou encore sur la page Facebook de l'émission. Dans un instant sur Europe 1, vous continuez, Franck Ferrand, à nous parler du Kama Sutra.
Franck Ferrand, 14h, 15h sur Europe 1.
Et nous revenons avec vous, Franck Ferrand, à l'histoire et aux détails du Kama Sutra.
Le monsieur dans cette publicité n'a pas l'air d'assumer du tout. Nous assumons parfaitement notre choix aujourd'hui. Alors, on a parlé de deux premières parties. La deuxième étant, vous l'aurez compris, le gros morceau du Kama Sutra, si j'ose dire. Alors, la partie 3 parle du choix de l'épouse et la quatrième des devoirs et des privilèges de l'épouse. Et alors là, je vous avoue que c'est assez surprenant. Enfin, surprenant, pas tellement quand on sait à quelle époque tout ça a été écrit, évidemment. Mais c'est une vision incroyablement, comme nous dirions nous aujourd'hui, machiste des choses. Hein. Chez une femme de la même classe qui n'est pas allée avec un autre homme auparavant et qui a été prise conformément au traité, un homme trouve religion, pouvoir, fils, relation, croissance de son clan et franc plaisir sexuel, nous dit le Kama Sutra. Ses pères et mères et ses proches l'aident à lui faire la cour, comme le font les amis qui sont reliés aux deux côtés et qui confirment ses paroles. Il courtise la jeune fille, la reçoit au moment où le sort, les présages, les signes des oiseaux et les conversations entendues sont favorables. Le Kama Sutra ajoute « Une seule épouse, avec une confiance profonde, considère son mari comme un dieu et agit toujours de la façon qui s'accorde avec lui. » Il y en a qui vont évidemment s'empresser d'aller citer ça. « Se conformant à ce qu'il pense, elle assume les soins de la maisonnée. Elle traite les parents plus âgés de l'homme, ses serviteurs, ses sœurs et les époux de ses sœurs, conformément à leur mérite. Elle ne lie pas de relations étroites avec une mendiante, une religieuse errante, une nonne bouddhiste, allez savoir pourquoi, une femme légère, un jongleur, un diseur de bonne aventure ou un magicien qui pratique la magie amoureuse à partir de racines. Bref, ça c'est pour la femme, l'épouse. Mais après la partie 4 vient évidemment une partie 5 qui elle est consacrée aux relations adultères. Et voilà ce qu'on peut lire quand même, c'est écrit, je ne fais que vous lire le Kama Sutra. Les hommes qui suivent réussissent généralement auprès des femmes. Alors attention, un homme qui connaît le Kama Sutra, un bon conteur, et ben voilà, Un homme qui a été proche d'une femme dès son enfance, un homme dans la fleur de la Genèse, un homme qui peut gagner la confiance d'une femme en l'impliquant dans des choses telles que les jeux, un homme si fort et si chaud qu'on l'appelle un taureau, un homme impulsif, un homme courageux, un homme qui dépasse son mari, qui dépasse le mari de la femme en question par les connaissances, par le physique, les qualités et la jouissance, un homme qui s'habille bien et vit bien. Voilà les catégories qui sont susceptibles de fourvoyer une femme et de faire basculer une relation dans l'adultère. Le sixième chapitre est consacré aux courtisanes, et paradoxalement, malgré son titre et malgré son sujet, ça n'est pas le plus chaud du Kama Sutra, si je puis dire. Et alors, très étonnant, la partie 7 est consacrée à tout ce qui relève des aphrodisiaques, de l'ambiance et des accessoires. Comme l'a écrit Marion en préparant cette émission, c'est une sorte de bonus, admettons que c'est une sorte de bonus. Alors, il y a des choses tout à fait... Si vous buvez du lait, par exemple, nous dit le Kama Sutra, ou ont infusé des haricots rouges, du poivre et de la canne à sucre, et qui a été mélangé à du sucre, vous devenez aussi viril qu'un taureau. Et si vous êtes incapable de satisfaire une femme à l'énergie sexuelle intense, ayez recours à des appareils en or, en argent, en cuivre, en fer. Si j'ose dire, il en existe pour toutes les bourses. Je reçois Malek Chebel dans un instant. Nous allons quitter le texte et l'ambiance du Kama Sutra pour rester néanmoins dans une atmosphère vaporeuse puisque nous parlerons de sensualité orientale avec lui.
Et vous nous parlez dans Cœur de l'Histoire cet après-midi, Franck Ferrand, de l'érotisme oriental et du Kama Sutra avec votre invité Malek Chebel, anthropologue et philosophe, auteur de l'érotisme arabe aux éditions Robert Laffont dans la collection Bouquins.
Oui, alors entendons-nous bien, le Kama Sutra, évidemment, n'a rien d'arabe. Ce que nous propose Malek Chebel, c'est de parler de l'érotisme arabe. Le Kama Sutra, moi je m'en suis servi en quelque sorte comme d'introduction à cette émission, Malek Chebel. Ce qu'il faut dire, c'est que dans cet ouvrage, très beau livre, de la collection Bouquins chez Robert Laffont, vous revenez, si j'ose dire, à vos premières amours, car vous avez commencé par vous intéresser à la question du corps.
Et de la sexualité arabe.
Oui.
Et pendant des années, je me suis intéressé à ça, au plan professionnel et au plan d'écriture. Et je n'ai cessé d'y penser d'une certaine manière, considérant que la plus belle histoire de l'humanité, finalement, c'est la sexualité. Je veux dire, on a beau tourner autour, mais dans toutes les cultures et dans toutes les civilisations, c'est bien le point central vers lequel nous revenons, que nous soyons grands ou petits, riches ou pauvres, oriental ou occidental, c'est quand même l'objet principal de notre existence. C'est l'amour, c'est la tendresse, c'est d'être l'objet de l'amour d'une personne, c'est de pratiquer la sexualité. Et donc, au fond, on revient toujours à ce point central et qui est l'amour et la sexualité.
Alors vous avez, parmi les textes qui sont présentés là, il y en a un particulièrement important, c'est le texte de Ibn Fulaïta. Il faut expliquer que vous êtes un des rares en Europe, peut-être le seul même, à posséder un...
Oui, il y a des chances, oui.
J'ai le manuscrit, en fait.
Oui, tout à fait. Un texte rare qui n'a jamais été traduit en aucune autre langue qu'en français.
Oui.
Et donc c'est la traduction mondiale, la première traduction mondiale de l'arabe. Et c'est un texte très étonnant. C'est dans ce texte que moi je résume, c'est l'instruction de l'amant et de l'aimé, c'est un discours érotologique sur l'amant et l'aimé, sur les conditions pour être un bon amant et les conditions pour être une bonne amante, qui lui-même d'ailleurs a lu le Kama Sutra de Vatsyayana. Et il en parle, et souvent il fait référence au Kama Sutra.
Mais avec, je trouve, beaucoup plus de franchise, si je puis dire, de crudité d'une certaine manière.
C'est très charnel.
Voilà, c'est très charnel. Voilà, oui.
Chez les Arabes, qu'on ne tourne pas autour du pot.
Voilà, c'est ça.
La chair étant bénie par Allah lui-même et par le prophète qu'il a expérimenté de son vivant et qui en a dit tout le bien, eh bien, on va droit au but. La chair est bénie, donc on y va.
Alors je vous parlais là évidemment du comportement des musulmans et de la chair et du corps en islam, mais ce qu'il faut dire c'est que la tradition arabe de sensualité remonte bien avant l'islam en vérité.
Alors bien avant l'islam, et c'était la partie amour courtois. Ce sont les jeunes qui restaient chastes, un peu ils étaient plus dans la lignée du Kama Sutra au sens religieux du terme, puisque c'était des conventions entre tribus. Et donc les jeunes gens et les jeunes femmes se valorisaient en restant vierges jusqu'au mariage, et parfois même quand le mariage ne peut pas avoir lieu pour différentes raisons sociologiques, par exemple de niveau social, eh bien, les gens préfèrent mourir que de sacrifier de la chasteté. Ça, c'est avant l'islam. Mais une fois que l'islam est venu, au 7e siècle, et surtout que le prophète a bien montré que la voie de la chair était une voie sacrée et sacrée pour la création de Dieu, et qu'elle est bénie, qu'elle est valorisée, donc l'islam s'est mis à faire l'apologie, si vous voulez, de la chair, sans retenue. Et on trouve dans le Coran et dans la tradition des textes étonnants de liberté et de morale sexuelle d'une modernité inouïe.
Alors nous allons venir en quelque sorte à toutes les étapes de cette sexualité, de cette sensualité arabe. Mais ce qui serait quand même utile, à mon avis, c'est de bien souligner dès maintenant, là, dans les débuts de notre entretien, ce que ça peut avoir peut-être de choquant pour certains musulmans. Est-ce que cette dimension, est-ce que vous êtes conscient que ça peut heurter certains, voilà, cette approche?
Moi, je pense que ça peut heurter, en effet. Sauf que pour les gens qui risquent d'être heurtés par ce que je vais dire et par ce que j'ai écrit, de toute façon, je leur dis seulement ouvrez le Coran, ouvrez les livres de la tradition, ouvrez même les plus grands théologiens de l'islam, les plus grands, les plus éminents. Al-Razali, ouvrez Suyuti, ouvrez Ibn Hazm, qui est le plus grand juriste de l'Espagne andalouse. Juriste, Qadir Qoddat, il était ministre de la Justice, qui a écrit un livre de psychologie amoureuse très étonnant. D'une modernité inouïe où il parle des blondes et des brunes, et il fait des comparatifs entre les blondes et les brunes en Espagne, andalouse, au 10e, 11e siècle, 12e siècle. Vous voyez, donc s'ils sont heurtés, c'est possible par la régression que nous avons connue au 19e et 20e siècle. Je leur dis de grâce, ne me jugez pas d'entrée de jeu.
À l'aune du 19e siècle ou du 20e, en fait.
Absolument. Lisez les livres, revenez aux textes, ils sont écrits par. Par chance, ils sont écrits, on peut les trouver.
Alors ces textes, certains sont rares, on ne peut pas dire qu'ils soient fréquemment publiés.
Non, bien sûr que non. Les textes sont rares, sont précieux. D'abord, ça parle d'ailleurs à une classe sociale élevée, hein, exactement comme pour les brahmanes. Voilà. Ça parle à l'élite, aux gens raffinés, aux intellectuels, aux érudits, aux grammariens, aux théologiens. Les théologiens peuvent être tantôt théologiens et tantôt érotologues. Donc ça parle aux gens un peu érudits et curieux et qui ont de la connaissance. Ceci étant...
Parce qu'il s'agit de faire de l'amour et de l'amour physique un art d'une certaine manière.
Art.
Donc il y a une dimension qui est proprement artistique, je crois
totalement.
Que le terme est pas... Hein.
C'est tout à fait un art, en tout cas c'est une esthétique de vie. Mais pour quand même répondre à la question de savoir si les gens peuvent lire ou ne pas lire. Moi, dans ma jeunesse en Algérie, j'ai connu des marchands ambulants de livres où l'un des textes que je traduis dans ce livre... qui s'appelle « Le jardin parfumé », Raoud al-Atar. C'est un petit livret de 50 pages que tout le monde lisait. Et je dis bien tout le monde, à commencer par les femmes. Les femmes pouvaient le lire et le lisaient entre elles. Moi, j'ai assisté de loin, évidemment, à des discussions autour du jardin parfumé par un cénacle de femmes qui s'extasiaient, qui gloussaient, à n'en plus pouvoir, de lire les artifices de la chair et de l'amour expliqués en arabe par ce Nefzaoui, qui est d'origine tunisienne et qui parle clairement une langue accessible à tous. Il ne faut pas être, avoir un bac plus 7 pour comprendre, ça se comprend très vite. Et donc ça se vendait sur le marché, ça coûtait 3 fois rien, et tout le monde a fait son éducation sexuelle dans ce livre. Donc c'est possible. Et sans aller jusqu'à Ibn Fulayta, qui est rare, et que maintenant il devient accessible à tous, je pense que Nefzaoui, le jardin parfumé, les gens qui nous écoutent d'origine et de culture arabe, savent de qui je parle.
Alors, le premier texte qui va marquer cet érotisme arabe, c'est vers le 9e siècle, c'est l'ouvrage de Ibn Daoud qui s'appelle « Le livre de la fleur », en fait.
Absolument, Ibn Daoud, Kitab Zahra, c'est lui qui, dit-on, et Denis de Rougemont et René Nelly, qui sont des spécialistes de l'amour courtois européens, eux-mêmes l'ont dit, et même Stendhal, dans un livre très curieusement peu connu qui s'appelle « De l'amour », le dit, c'est Ibn Daoud, qui est un grand théologien du 8e, 9e siècle, qui a codifié l'amour courtois. À quelle distance doit-on se mettre par rapport à une femme pour à la fois la séduire sans l'offenser? Le cas échéant, s'il y a une troisième personne qui assiste à la scène...
À quelle distance, non seulement physique, mais psychologique?
Absolument.
À quelle distance au sens général du terme?
À tout point de vue, oui. Quelle est la distance qu'il faut respecter pour pouvoir entrer en contact, si je puis dire, avec une femme qui vous plaît et pour laquelle vous manifestez votre désir, mais sans que pour autant elle ne soit elle-même discréditée, parce que nous sommes dans un contexte tribal, familial, très très corseté, très codifié. La distance est importante. Et on dit même que l'usage raffiné des parfums par les femmes, c'est une signalétique de désir. La femme ne met pas le même parfum le jour et la nuit, durant les fêtes ou sans les fêtes. Et quand elle va voir son amant, c'est un parfum spécial qu'elle met.
Ce qui m'a beaucoup frappé, moi, dans cette approche-là, c'est les liens incroyablement modernes qui peuvent exister avec certains textes des plus contemporains. Je pense tout simplement au fragment d'un discours amoureux de Barthes, par exemple.
Ah ben,
cette notion d'approche et de distance, elle continue aujourd'hui encore d'interroger les personnes qui travaillent sur l'érotisme.
C'est... Oui. Et puis il y a certains fondamentalistes qui veulent nous imposer des jumelles, vous voyez, pour voir les femmes. Non, non, on n'en a pas besoin, on a juste besoin d'être à la rencontre de la femme. Et je dirais que pour compléter, moi, il y a un thème qui m'a beaucoup intéressé dans cette anthologie, c'est Éphèbe et Courtisane. Ce sont deux hommes au 9e siècle qui parlent de leurs préférences amoureuses. L'un est hétérosexuel, il fait l'apologie de la femme et tous les privilèges, les faces de la femme, les faces de la chair avec la femme, l'extase absolue à laquelle on peut atteindre, qu'on peut atteindre avec la femme. Et l'autre est homosexuel. Il dit, moi, les faces, c'est chez les mignons, c'est les jeunes gens, etc. C'est très étonnant, un texte de 11 siècles qui nous parle sans la culpabiliser, la relation homosexuelle.
Ça fait penser à ces miniatures persanes. Alors, on n'est plus dans le monde arabe, là, mais dans le monde persan,
oui.
Où on voit des scènes érotiques, etc. Et si vous regardez bien, vous vous rendrez compte que les apparentes jeunes filles sont des jeunes gens, en vérité.
En tout cas, ce sont des miniatures souvent du même sexe.
C'est ça, oui.
Bon, ce qui est intéressant dans cette dimension moderne, c'est que nous découvrons au fond, par ce biais-là, que le monde arabe, que nous croyons rébarbatif, un peu complètement réfractaire à la jouissance, au plaisir, à la modération, au raffinement, etc., est d'une grande richesse. Mais encore faut-il, là encore, aller à la source, ouvrir un livre, écouter, ouvrir ses oreilles, écouter une musique maghrébine, une musique égyptienne. Ça ne parle que d'amour, de toute façon. Hein. Il suffit juste de décoder. Regarder un film. Et d'une façon libre et singulière, souvent on vous ramène sur cette question-là.
Alors, quand on parle en France d'amour courtois, on fait référence d'abord au troubadour de Guillaume et d'Aliénor d'Aquitaine, etc. Bref, on est au XIIe siècle, à Tristan et Iseut. Et là, vous nous parlez d'un amour courtois qui remonte plus loin, qui remonte carrément au IXe siècle. Alors, j'aimerais que vous posiez dans un instant une question sur l'antériorité.
Franck Ferrand, 14h-15h sur Europe 1.
Au cœur de l'histoire, vous nous parlez cet après-midi, Franck Ferrand, de l'érotisme arabe avec votre invité, Malek Chebel, anthropologue et philosophe, auteur de l'érotisme arabe aux éditions Robert Laffont dans la collection Bouquins.
Il y avait autrefois dans les bibliothèques privées ou publiques des étagères qui étaient placées très haut, vous savez, pour que les jeunes gens, les enfants n'y accèdent pas. Il y avait l'enfer aussi à la Bibliothèque nationale, tout simplement.
Il y a toujours,
hein, d'ailleurs, c'est devenu une sorte de tradition. On pourrait presque dire que votre ouvrage y a d'emblée sa place, hein, Malek Chebel. Il y a quand même des choses d'une parfaite crudité. Enfin, on est dans la sexualité sans mots couverts, si je puis dire.
Non, parce que, je veux dire, c'est l'inverse qui aurait été choquant, en tout cas à mes yeux. Si j'avais décidé de restreindre le champ, de réduire le périmètre, de ne pas parler de certaines choses, notamment anatomiques, et de ne pas expliquer correctement les positions, et de jouer, si vous voulez, à une sorte d'hypocrisie religieuse, ça ne pouvait pas marcher, puisque précisément, je fais l'apologie, si vous voulez, de la liberté individuelle, du choix, du désir partagé. Et l'amour ne peut pas, si vous voulez, accepter d'être compromis par de la triche et par l'absence de vérité.
Alors nous avons parlé d'un amour courtois. Il y a aussi, avec les mille et une nuits, un amour, comment est-ce qu'on pourrait le qualifier
Exubérant.
Exubérant, voilà,
oui,
exactement.
Exubérant, presque total. Presque précisément dans l'esprit de cette anthologie, quasiment encyclopédique. C'est-à-dire que dans les mille et une nuits, vous avez toutes les postures, vous avez tous les amours, vous avez toutes les combinaisons possibles. En tout cas, il n'y a que le choix et le désir des protagonistes qui comptent dans les mille et nuits.
Et puis viennent des auteurs autrement inattendus, et ça c'est vraiment une découverte, en tout cas pour moi, c'est ce que vous appelez les théologiens de l'amour. Ça c'est assez extraordinaire, une dimension qui là est carrément religieuse en vérité.
Et tout à fait, j'ai remarqué dans tout mon travail qu'un grand nombre de théologiens étaient très respectés dans leur milieu religieux comme étant des théologiens de référence. Je nomme Al-Razali, je nomme Sayyuti, un certain nombre de gens qui sont tous des références pour ce qui est de la religion, pour ce qui est de l'interprétation du Coran, qui mènent la prière, qui font, ce sont des imams qui conduisent la prière et qui, après la prière, durant un ou deux siècles, ils étaient là à donner des leçons ou des conseils conjugaux, à résoudre des problèmes sexuels.
Oui, Al-Razali a écrit un livre, un traité sur le mariage.
Sur le mariage, et d'une modernité incroyable. Al-Razali, où il parle précisément du respect de la jouissance féminine. Il donne des conseils aux hommes qui viennent le voir sur l'insatisfaction de la femme, par exemple. Il lui explique que la psychologie féminine, la psychologie sexuelle féminine, où la montée du désir chez la femme est différente. Elle a une chronologie différente de celle de l'homme et qu'il faut pas avoir une attitude de brute avec une femme au moment de l'amour. Il faut lui parler quand t'es fleurette, il faut lui dire des belles choses, il faut la caresser à peu près partout et pour la préparer. Et de toute façon, dans la conjonction, dans la relation amoureuse, dans la relation charnelle, il faut prendre tout son temps.
Et quant à Suyuti que vous venez de oui. citer, quelle époque à peu près là? Donc
on est 14e siècle.
14e, oui, donc 14e. C'est nettement plus récent, si je puis dire.
C'est
alors
plus
lui
récent.
A carrément écrit 12 traités érotiques, en fait.
Alors hein. Là, Suyuti, c'est un auteur fleuve, c'est un romancier de l'amour. C'est une grande autorité religieuse et qui, par ailleurs, a écrit 12 traités érotologiques.
Il faut souligner, hein, vous avez bien dit, c'est une grande autorité religieuse. C'est
un grand commentateur du Coran. D'ailleurs, il a fait un commentaire célèbre du Coran, qui est une référence. Les gens le lisent. Pour comprendre le Coran, ils doivent passer par Suyuti, qui, parallèlement, est également un érudit de premier plan sur le plan érotologique. Il a écrit 12 traités d'érotologie. Qu'un jour, d'ailleurs, je ne perds pas espoir qu'un jour je les publierai pour qu'on voit bien
de quoi
il s'agit.
Ça pourrait être la suite tout à fait logique de cet ouvrage, de ce recueil sur l'érotisme arabe. Alors, il faudrait dire un mot peut-être de Ibn Hazm aussi, qui a écrit le...
Alors Ibn Hazm, c'est quelqu'un de très, très étonnant. C'est un juge, un jurisconsulte. Il est même devenu juge des juges, c'est-à-dire ministre de la justice en réalité, au temps de l'Andalousie, au temps de l'Espagne musulmane. Et cet auteur, qui a écrit un certain nombre de traités philosophiques. Lui, il est dans une doctrine philosophique importante, le zahirisme, créateur d'ailleurs de doctrines religieuses à lui tout seul. Et il a écrit un traité tout à fait étonnant qui s'appelle le collier de la colombe. Le collier de la colombe, c'est la description, c'est de la psychologie amoureuse. C'est exactement ce qu'on appellerait aujourd'hui. Il parle de la femme, il parle de la séduction, il parle de l'homme. Il parle des critères de l'amitié, il parle du raffinement et du compagnonnage des poètes entre eux, il parle de la douceur que peut évoquer l'image d'une femme, etc. C'est un traité qui est fameux, qui est lu par tous, qui est traduit d'ailleurs dans un nombre incalculable de langues, et il n'a jamais démérité au point de vue de la religion, et il continue à être une grande référence pour ce qui est de la religion aussi.
Alors, ça c'était pour les religieux, il y a aussi bien sûr des traités érotiques profanes dans cette culture arabe, bien entendu.
Et là, ils ne se sont pas limités, si vous voulez, à une observation extatique de l'amour et de la relation charnelle. Au contraire, ils y sont allés de plein pied et ils l'ont décrite à tout bout de champ. Ça a commencé avec les Mille et Nuits déjà. Les Mille et Nuits ont été en réalité une sorte de... d'appel à l'amour, un appel de l'amour, un appel de la chair. Très étonnamment, ce sont les femmes qui avaient initié l'homme dans les Mille et Nuits, au Xe siècle. Mais par la suite, les hommes vont prendre en quelque sorte leur revanche parce qu'ils vont écrire les textes les plus chauds qu'on ait jamais connus dans l'histoire de l'islam. Et ce sont des hommes qui vont les écrire, c'est Cheikh Nafzawi, c'est Ibn Fulayta, bien sûr.
Ça, c'est le Kamasutra arabe, si on peut dire, d'une certaine manière.
C'est le Kamasutra arabe.
Mais qui se distingue assez du Kamasutra indien, du reste.
Oui, celui-là, il n'est pas religieux. Il est tout à fait profane. Il parle uniquement de chair et d'amour et de sexe. Il ne parle pas de conjonction.
Il n'y a pas de dimension amoureuse au sens élevé du terme. Là, on est dans quelque chose de plus physique.
C'est l'exercice de l'amour.
C'est ça, voilà.
C'est l'amour, mais appliqué. Donc, il est question évidemment de parfum, il est question de missive, il est question d'aphrodisiaque, il est question de mensuration, de posture et de position.
Et puis il y a tout, bien sûr, tous les attributs de l'Orient, si je puis dire, les questions de harem, de hammam, enfin de tout ce qui nous fait rêver en Occident depuis si longtemps.
Oui, il y a aussi le point haut qui est le point C'est le point G, l'équivalent du point G.
Oui, c'est ça, oui.
C'est le point G, le point Orient. Et donc, et tout ça baigne dans une certaine, comment dire, une certaine, une vie d'aisance et de bonheur que nous avons, que rarement le monde arabe a donné de cette manière-là. Parce que ce sont des gens toujours lettrés, raffinés, qui donnent l'exemple, qui sont pris en exemple par leurs contemporains. Et qui jamais n'ont démérité au point de vue de la religion, parce que par ailleurs c'est aussi des religieux.
Est-ce qu'on peut dire qu'une autre distinction, une autre différence avec le Kama Sutra indien dont j'ai dit quelques mots au début de cette émission, c'est que dans le Kama Sutra indien c'est l'homme qui est au cœur du texte, alors que dans les traités arabes ce serait plutôt la femme qui serait au cœur en quelque sorte.
La femme est la grande prêtresse de toute façon,
c'est ça,
de l'amour,
hein, oui,
au sens universel du terme, et en particulier chez les Arabes, d'autant que précisément chez les Arabes on a des hommes souvent pudiques par rapport à la femme. La femme est beaucoup plus concrète, beaucoup plus pragmatique, et elle est l'initiatrice. C'est elle qui gouverne finalement la sexualité de l'homme. On l'a vu avec le harem du prophète. Ce sont les femmes qui gouvernent le harem du prophète. Les gens qui m'écoutent, ils vont dire que c'est peut-être que je suis scandaleux, mais pas du tout. Lisez les auteurs arabes. Lisez Tabari, le plus grand historien, le plus grand historien du monde arabe. Le Franck Ferrand du 9e siècle.
Oh, vous êtes trop gentil.
Si, si, si.
Est-ce qu'on peut dire que tout ça est quand même conjugué au passé, qu'il y a eu, une rupture du monde arabe avec ces textes érotiques?
Oui, il y a peut-être une rupture du monde arabe, mais je pense que il n'y a jamais de désespoir totalement, dans le sens où les textes existent et les gens ont une curiosité inouïe, et j'ai cru comprendre dans nos dernières années, et à commencer par les révolutions arabes, que la parole s'affranchit, et en particulier la parole féminine et la parole des jeunes, s'affranchit totalement des canons de la répression de cette parole-là durant le 19e siècle. Et que nous sommes sur une nouvelle page qui s'inscrit aujourd'hui, à travers les femmes et les jeunes, vers une nouvelle conquête de soi, une conquête de son corps, de sa jouissance et de son bonheur.
On pourrait parler donc du coup de reconquête, finalement.
C'est une reconquête de son bonheur personnel et partant aussi de son désir et de sa sexualité.
Alors, tous ces textes dont vous aurez bien compris qu'ils ne sont pas à mettre tout à fait entre toutes les mains, tous ces textes sont réunis dans le beau recueil édité chez Bouquin, hein, la collection Bouquin chez Robert Laffont, par Malek Chebel, et ça s'appelle tout simplement L'érotisme arabe. Merci beaucoup Malek Chebel d'être venu nous en parler avec cette pudique gourmandise. Merci.
Dans un instant sur Europe 1, vous répondrez Franck Ferrand à la question de Linda sur les expressions qui font référence aux moutons, comme mouton de Panurge.
Europe 1, au cœur de l'histoire. Retour aux origines.
Et vous répondez cet après-midi, Franck Ferrand, à la question de Linda. Elle nous l'a envoyée via la page Facebook de l'émission. Linda aimerait connaître l'origine des expressions « revenons-en à nos moutons » ou encore « mouton de Panurge ».
Ah oui, alors « mouton de Panurge », la réponse est évidente. Les deux d'ailleurs, c'est tiré de notre vieille littérature, hein, littérature de la fin du Moyen-Âge, début de la Renaissance. En l'occurrence, les moutons de Panurge, ce sont les moutons du personnage de Rabelais dans le car-livre de François Rabelais. Vous savez, je vous lis d'ailleurs le passage. « Soudain Panurge, dit Rabelais, sans un mot jette à la mer le mouton criant et bêlant qu'il venait d'acheter, tous les autres moutons, criant et bêlant de même façon, commencèrent à sauter par-dessus bord et à se jeter à la mer l'un après l'autre. Ils se pressaient, l'un essayant de se jeter avant l'autre, personne ne pouvait les en empêcher, puisqu'il est du naturel du mouton de suivre toujours le premier où qu'il aille. Bon ben là, qu'est-ce que vous voulez que je vous donne comme explication plus limpide, plus lumineuse de l'origine de notre expression mouton de Panurge? J'ai envie de dire, il n'est que de relire Rabelais. Alors, l'expression « revenons à nos moutons » est également issue d'un texte à peu près de la même époque, un petit peu plus ancien. C'était la farce de Maître Patelin, une pièce anonyme, probablement collective, du 15e siècle. La comédie met en scène un procès dans lequel le plaignant, qui est un drapier du nom de Guillaume Joussaume, se retrouve par hasard face à deux personnes qui l'ont volé. Et alors, il y a tout un dialogue devant le juge, et le juge lance « De par diable, vous bavez, et ne savez-vous revenir au sujet sans entretenir la cour de telle baverie, sus, revenons à ces moutons. Qu'en fut-il ? » Eh bien, donc, la réplique a beaucoup fait rire le public du 15e siècle et sans doute pas mal d'autres gens après, puisque c'est devenu une expression « revenons à nos moutons ».